Depuis environ 2 semaines, soit début janvier 2026, le Groenland est au cœur d'une crise diplomatique majeure déclenchée par les déclarations répétées de Donald Trump, qui veut acquérir ou contrôler l'île pour des raisons de sécurité nationale, pour, paraît-il, contrer la Chine et la Russie en Arctique, déployer le Golden Dome et pour exploiter ses ressources en terres rares et en minéraux critiques. Il insiste plus ou moins, selon un point ou l'autre, en fonction des circonstances. C'est au lendemain de la démonstration de force de la capture de Maduro que le sujet est revenu brutalement sur la table. Trump a réitéré que l'achat du Groenland restait une priorité, n'excluant pas des options dures, y compris militaires, selon des fuites de la Maison-Blanche, même si l'accent est mis sur la négociation économique et la pression, et que les mesures seraient prises donc dans les semaines qui viendraient. Cela a lancé une nouvelle séquence de psychodrames transatlantiques comme on en connaît régulièrement depuis le retour au pouvoir de Trump. Le Danemark et le Groenland maintiennent une position ferme. Le Groenland n'est pas à vendre et l'île appartient à ses habitants. Le Premier ministre groenlandais et la Première ministre danoise Mette Frederiksen ont répété que toute annexion violerait le droit international. Plusieurs pays européens, au premier rang desquels la France d'Emmanuel Macron, ont décidé de faire eux aussi une démonstration de force symbolique en envoyant une trentaine de commandos de reconnaissance en exercice depuis le 15 janvier, avec des contingents français, une quinzaine de chasseurs alpins, mais aussi allemands, norvégiens, etc. Aujourd'hui, Donald Trump a annoncé des tarifs douaniers punitifs de 10% dès le 1er février 2026, puis 25% en juin, sur les importations de 8 pays européens, Danemark, Norvège, Suède, France, Allemagne, Royaume-Uni, Pays-Bas, Finlande, bref, ceux qui résistent à la pression de Donald Trump. Et cela tant qu'il n'aura pas d'accord sur la vente complète du Groenland. Cela a naturellement provoqué une nouvelle onde de choc. Jusqu'où peut aller la confrontation pour le Groenland ? Bonsoir, je suis Philippe Fabry, nous sommes le 17 janvier 2026, il est 21h36, je suis un peu en retard, et je vous dis bonsoir pour ce live hebdomadaire qui sera suivi comme d'habitude des lives privés des souscripteurs dans lequel je répondrai à toutes leurs questions. Ceux qui veulent poser des questions pendant le live public et que j'y réponde pendant le live public peuvent le faire avec un petit don ou éventuellement avoir de la chance si l'Irumissime qui suit tout cela sur Telegram, m'adresse une question choir. Ce soir, j'étais parti pour faire une émission sur un sujet plus franco-français, l'évolution du budget, les questions du Mercosur, etc. Mais j'ai été rattrapé et réorienté par l'information qui est tombée en fin d'après-midi sur l'annonce des tarifs de Trump. Donc ça va être ça le sujet de ce soir. Je refais un petit rappel sur le fait que je vous ai dit, vous savez que un super live, un des nouveaux formats super live privé serait prochainement mis en ligne. Il a toujours pas été, je sais, depuis l'émission de la semaine dernière, mais il va l'être, là il devrait l'être lundi. Voilà. On l'a préparé avec un petit message d'intro, donc il va être remis en ligne comme ça. C'est le Sueur Portal qui s'en est occupé. Et voilà, donc il sera vraisemblablement mis en place lundi. Et je vous ferai un petit point sur l'évolution de la chaîne, parce que vous aurez peut-être noté que nous avons passé ce soir les 65 000 abonnés. Ce n'est pas sans raison, mais c'est grâce à votre soutien, et je vous en redirai quelques mots à la fin. Donc, j'ai pensé utile et nécessaire de faire un point sur cette question, j'ai dit, parce qu'elle est très urgente, c'est parce que je sais qu'elle clive, elle clive au sein de la population, elle clive sur Twitter, elle clive même sur notre canal Telegram. Donc il m'a paru utile de revenir sur le sujet pour vous dire exactement ce que j'en pense moi. Puis après vous en penserez ce que vous voulez en penser vous. Le truc étant, ce que j'en pense moi surtout sur le plan historionomique, parce que c'est toujours ça qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on peut chacun avoir ses idées, ses inclinations, ses espérances. L'historionomie n'est pas là pour nous dire forcément oui ou non, mais elle est là en tout cas pour nous donner le cône des possibles a priori, et donc éviter de poursuivre des illusions. Ou de se mettre en danger en ayant une appréciation mauvaise, soit de ses propres forces, soit de celles adverses, soit des intentions adverses, ce qui est souvent le plus dangereux. Et vous savez d'ailleurs que l'historionomie jusqu'ici a souvent plus été utile pour distinguer les intentions, hein, comme l'intention de Vladimir Poutine d'envahir l'Ukraine, que les capacités, puisque on a vu que les capacités russes en Ukraine ont été inférieures à ce qu'on pouvait imaginer au préalable. Donc on va faire un petit tour, on va parler un petit peu de tout ça, on va reprendre des cartes, parce que je sais que vous aimez bien que j'en utilise maintenant. Donc on va ouvrir ça. Cette fois-ci on fera avec Google Earth, parce que pour le Groenland, c'est mieux d'avoir une vision du dessus. Mais avant de partir là-dedans, en guise d'introduction, je voudrais rappeler quelques petits fondamentaux historionomiques, justement, qui sont des fondamentaux de trajectoire. Parce que, effectivement, je vais partir de là. Moi, la position qui est la mienne, et c'est pas ni par pro-américanisme, pro-trumpisme, ce que vous voulez, qu'elle est celle-ci. Elle est celle-ci parce que mon analyse des enjeux de la question est fondée sur ce que je pense, sur l'analyse historionomique que je fais de la situation mondiale. Et cette analyse est la suivante. Et c'est ce qui m'a semblé utile de vous la faire parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, mais à ce moment-là, si on cède par exemple à Trump sur le Groenland, pourquoi, quelle est la différence avec Poutine sur l'Ukraine, etc. Alors, je voudrais rappeler donc des petites ces petits points historionomiques. Donald Trump est l'incarnation actuelle de la transition en cours des États-Unis de la phase oligarchique vers la phase absolutiste. Alors, je ne vais pas refaire tout le détail sur en quoi ça consiste, naturellement, mais simplement, ce que ça veut dire, c'est que on a un pouvoir central américain qui est en phase ascendante, on a une puissance américaine qui elle-même est toujours en phase ascendante, et on le voit d'ailleurs, même si on avait eu l'impression qu'il pouvait y avoir une espèce de reflux de l'Amérique pendant les années Biden. Il y a un retour qui a été observé de la puissance américaine depuis, et qui est en cours, avec une volonté de puissance qui est affichée. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, un absolutiste a tendance à... Enfin, ce qui marque la phase absolutiste en général, c'est la recherche des frontières naturelles, du précaré, si vous voulez. Le précaré, si je peux vous illustrer ça, c'était la théorie de Vauban. Hein. Je ne vous ai pas préparé de lien là-dessus, on va le faire. Hein. Truc. L'idée, c'était que, voilà, c'était que la France, à l'arrivée de Louis XIV, avait une frontière qui était un petit peu n'importe quoi, avec des creux, des bosses, et donc des trucs qui étaient assez difficiles à défendre. Et donc l'idée de Vauban, c'était de faire donc des ceintures comment dire, d'unifier le territoire pour pouvoir faire des ceintures de défense. Vous voyez, parce qu'il y avait notamment un gros problème, c'est qu'il y avait un trou, là, je pense que vous le voyez. Il y avait un trou au nord-est. Et ça, c'était pas du tout facile à défendre, naturellement. Et donc, l'idée, c'était donc de faire une espèce d'unité du territoriale. Et ça se trouve à l'époque de tout le monde. C'est-à-dire, si vous regardez la construction de l'Allemagne de Bismarck, on va faire ça. On va faire, c'est quoi? On va faire Empire allemand, vous allez voir. Empire allemand, on doit avoir une carte dedans qui sera pas mal pour vous rappeler ce que c'était, pour vous rappeler ce qu'était le problème de la Prusse. Pour comprendre ce qu'était l'Empire allemand, vous regardez la Prusse, vous voyez, et la Prusse, c'est ce qu'il avait en bleu, et vous voyez, il y avait des trous un petit peu partout. C'était pas du tout facile à défendre comme territoire. Alors que l'idée pour la Prusse de faire l'Empire allemand, de faire l'unité allemande, c'était, bon, à la fois, il y avait une vision nationale, qui était la vision de l'Allemagne, hein, ce qu'on appelait la solution petite Allemagne, sans l'Autriche, mais aussi et surtout, il s'agissait d'obtenir des sortes de frontières naturelles de cet espace allemand, parce que la Prusse était très difficilement défendable. Et donc, par le processus d'unification et de fédéralisation, puisque l'Empire allemand était en fait une fédération d'États allemands, c'était un moyen pour la Prusse d'obtenir en quelque sorte ses frontières naturelles, tout simplement. Donc, je pourrais multiplier les exemples, mais je ne vais pas le faire. Mais tout ça pour vous dire que le fait de faire en sorte qu'il n'y ait pas de trous sur la carte et qu'on ait des frontières naturelles, c'est typiquement l'ambition d'un régime qui entre en phase absolutiste. Voilà, c'est l'étape de la construction nationale qui veut ça, si vous voulez. C'est pour ça qu'à la même époque, par exemple, vous avez l'Italie qui a fait son unification, etc. Donc, si vous prenez, alors bon, j'avais fait Google Maps à la base, mais Google Maps c'est Mercator, alors c'est très très trompeur naturellement. Mais vous connaissez, vous savez comment sont fichus les États-Unis, c'est ici. Il y a l'ambition trumpienne d'avoir le Canada et l'ambition trumpienne d'avoir le Groenland. Alors, si vous le regardez par-dessus, c'est-à-dire comme ça, vous comprenez, et ça paraît assez évident, qu'on approche de quelque chose comme des frontières naturelles américaines. Si vous êtes, c'est-à-dire au sud, vous avez le Rio Grande avec la frontière mexicaine qui est quand même assez bien marquée. Ensuite, vous avez la recherche du Canada et la recherche du Groenland. Et donc tout ça, il y a une cohérence, si vous voulez, territoriale là-dedans. Ce qui ne signifie pas que ça ne justifie pas, si vous voulez, en soi, le fait que l'Amérique ait des prétentions sur ce territoire-là. Mais ça vous explique. Et surtout, ça vous donne ce qui, selon moi, est la principale raison, la raison fondamentale pour laquelle Donald Trump veut le Groenland. Vous avez des gens qui disent, il est idiot, c'est parce qu'il a dû voir une projection Mercator, il voit que c'est énorme, alors il le veut parce que Trump, orgueilleux, haha, bon. Ensuite, vous avez certaines explications que Trump reprend lui-même. Le positionnement pour surveiller les routes de l'Arctique, les minerais, bien sûr. Le risque que les Chinois et les Russes s'en approchent, très bien. Tout ceci est cohérent. Mais au fond, ça veut dire quoi tout ça? Au fond, ça veut dire qu'il faut pas qu'il y ait de trous sur la carte. Au fond, ça veut dire qu'il faut arriver aux frontières naturelles de l'Amérique du Nord. C'est ça, en fait, qu'il y a dans la pensée américaine. Encore une fois, je ne dis pas que ça le justifie. Je vous explique que si vous ne comprenez pas cela, c'est un problème parce que vous risquez de vous méprendre. Sur les. Il y a un problème de son encore, non? Bon, j'attends le résultat du sondage. Vous risquez de vous méprendre. Du coup, répondez au sondage, que je sache s'il faut que je fasse quelque chose, mais a priori, ça fait longtemps que je n'ai pas réglé, et aux dernières nouvelles, ça allait bien. Le montage. Pas le montage. Attends, dis-moi. Attends, je vais regarder si Romain m'a donné son avis sur le son. Donc je disais, oui, si vous comprenez pas ça, vous allez faire une erreur sur les intentions de Donald Trump, vous allez faire une erreur sur, on va dire, ce que peuvent être les intentions collectives des États-Unis, et vous allez faire une erreur donc sur ce qu'ils risquent effectivement de se passer et de ce qu'ils sont capables de faire pour obtenir ça. Alors naturellement, actuellement, si vous regardez les sondages, vous apercevez que la majorité des Américains tendent à penser que le Groenland, ils s'en foutent. Et vous en avez une minorité, je crois, un peu moins de 40%, qui sont favorables à l'annexion du Groenland. Ils sont très majoritairement défavorables, bien sûr, au fait qu'il y ait une confrontation avec l'Europe pour ça, c'est-à-dire que ce soit fait par la force. Bon. Mais vous avez quand même une minorité importante qui est pour l'annexion, et vous avez une équipe dirigeante américaine qui manifestement est favorable à ça. Et quand vous arrivez à un régime absolutiste, en général, c'est pas tellement l'opinion publique qui est importante, c'est effectivement les gens qui dirigent et ce qu'ils en pensent qui est important. Alors Donald Trump ne sera pas là éternellement, on est d'accord. Mais il faut comprendre que dans l'esprit américain, c'est quand même ça c'est significatif. En plus, si vous regardez sur le siècle passé, très honnêtement, effectivement, et c'est ce qu'on va le voir dans le poste de Trump, ça fait un siècle ou un siècle et demi que les Américains essaient de récupérer le Groenland. La première fois, c'était en 1867. Et de l'autre côté, le Groenland, lui, ça fait un siècle et demi qu'il s'éloigne petit à petit, enfin un siècle on va dire, qu'il s'éloigne petit à petit du Danemark, de plus en plus, et de l'Europe dans son ensemble. Alors il y a peut-être un mouvement inverse dans la classe politique groenlandaise en ce moment, mais voilà. Donc je reprends l'idée fondamentale. Donc on a une Amérique qui est en phase absolutiste, qui vraisemblablement va vouloir ce territoire de plus en plus, pour les raisons que j'ai dites qui sont de précaré. Mais au-delà de ça, elle menacera pas le continent européen. Et là, c'est la grande différence, si vous voulez, qu'il y a avec Poutine, pour les gens qui me font le parallèle avec Poutine. Poutine, c'est un impérialiste revancheur, qui par définition veut dominer l'Europe. Il veut une domination au moins partielle sur l'Europe, pour avoir son socle de puissance et pour être une vraie superpuissance. Et donc, il ne s'arrêtera pas à l'Ukraine. Quand on dit que Poutine ne s'arrêtera pas à l'Ukraine s'il la prend, c'est vrai, c'est une certitude. Il ne s'arrêtera pas à l'Ukraine. Et donc, et inversement, si on contre la Russie de Poutine, qui est un impérialisme revanchard, qu'on lui résiste et qu'on la bat, à ce moment-là, la Russie évoluera positivement vers un régime qui sera plus démocratique, comme l'Allemagne ou le Japon en 1945. Et donc, il ne faut pas laisser l'Ukraine à la Russie, parce qu'il est de bons calculs, à brève échéance, d'arriver à débarrasser la Russie du régime de Poutine et d'avoir une Russie qui sera démocratique, avec laquelle, pour le coup, on pourra faire des affaires sans problème, comme on n'a pas eu de problème avec l'Allemagne et le Japon depuis 1945. Avec l'Amérique, on est dans une configuration tout à fait différente. Puisque d'une, si c'est un absolutiste, donc il veut ses frontières naturelles. Ça veut dire que le Groenland, il n'ira pas plus loin. Enfin, il n'ira pas plus loin en direction de l'Europe. Vraisemblablement, il essaiera d'avoir le Canada aussi. Bon. Mais le Canada, ce n'est pas en Europe non plus. Et, mais en tout cas, il ne viendra pas menacer existentiellement l'Europe comme peut le faire Vladimir Poutine. Et enfin, en tout cas, si on ne va pas à la confrontation, parce que c'est là le problème, je vais en reparler, mais c'est de créer un danger qui autrement serait inexistant, par mauvais calcul des enjeux, en fait. D'autre part, il n'y aurait pas de menace donc, au-delà de ça. Et en même temps, il a une vraie volonté de le prendre. Et, troisième élément, même si on résiste à l'Amérique de Donald Trump, l'Amérique va être vraisemblablement de plus en plus puissante dans les décennies qui vont venir, notamment par rapport à l'Europe, en particulier pour des raisons démographiques, parce que l'Europe vieillit beaucoup plus vite que l'Amérique. Et en plus, comme vous le savez puisque j'en parle souvent ici, l'Union européenne dans son ensemble est plutôt vers le stade de l'ancien régime. Donc elle risque d'être sur le bord d'un renversement interne. C'est déjà pour cette raison-là que c'est dangereux d'entrer dans ces conditions en guerre avec la Russie, mais enfin avec la Russie on n'a pas trop le choix, pour les raisons que j'ai dites, parce que de toute façon la Russie veut attaquer l'Europe. Par contre, l'Amérique ne veut pas nécessairement attaquer les États-Unis. Donc aller dans cette confrontation-là et risquer l'implosion totale, et risquer de se mettre totalement à la merci d'une confrontation qui risquerait de faire plus de mal que de bien, c'est pas forcément un bon calcul. Voilà, donc c'est pour ces raisons-là, moi, que j'ai tendance à dire, à ce moment-là, il vaut mieux lâcher le Groenland pour conserver une relative... pour maintenir en fait les Américains en dehors du jeu européen interne lui-même le plus possible, et puis parce que de toute façon on risque d'avoir besoin de l'Amérique contre la Russie de Poutine, encore un moment. Et je trouve ça idiot de se disputer en interne pour cette raison du Groenland, effectivement. Alors je comprends tout à fait qu'il y ait un positionnement, on va dire, juridique, ou de principe qui soit en face, parce que c'est vrai que c'est injuste et peut-être même inique que les États-Unis veuillent s'emparer du territoire qui est un territoire qui appartient encore vaguement à... vaguement, je dis, parce qu'il y a eu cette autonomisation, mais qui appartient toujours de jure à un État européen. Malheureusement, il faut avoir connaissance des enjeux et la perception historionomique que j'en ai n'est pas forcément celle que peuvent avoir des gens qui n'ont pas la perception historionomique du problème. Si vous avez l'impression qu'il n'y a pas de déterminisme, que l'Europe peut tout à fait mettre une branlée aux Américains et se battre toute seule contre la Russie derrière et qu'on en sera capable et que ça ne posera pas un problème pour les 50 prochaines années d'avoir saboté totalement la relation transatlantique en menant une espèce de guerre civile intra-occidentale, après tout, pourquoi pas ? Si vous pensez que ça risque d'amener à ce genre de choses, et que, comme je le dis et je l'écris pour le coup depuis pratiquement 20 ans, c'est-à-dire que sur le modèle notamment de ce qui s'est passé entre la Grèce antique et Rome, puisque c'est le premier parallèle que je fais en fait, hein, entre l'Europe et la Grèce antique, l'Europe moderne et la Grèce antique et Rome et l'Amérique, ça s'est mal terminé pour les Grecs. Donc ça fait 20 ans que je dis ça, et 20 ans que je dis, le jour où il risque d'y avoir une confrontation entre l'Europe et l'Amérique, j'espère qu'on ne fera pas l'erreur de refaire ce qu'ont fait les Grecs, de se lancer dans cette espèce de confrontation, de se prendre une branlée, de finir par être une pure province de Rome. Et c'est vrai que ce que je vois en ce moment m'inquiète, parce que j'ai l'impression que c'est très exactement ce qu'on va faire. Et si vous voulez en savoir plus, vous avez une émission que j'avais faite là-dessus sur Radio Athéna, qui est dans la liste Radio Athéna de la chaîne, qui est la dissolution de l'Union européenne, et c'est de ça que je parlais, en particulier de ce parallèle avec la Grèce. Donc ce parallèle, je le faisais il y a 5 ans, je vais pas c'est pas maintenant que les choses se concrétisent, et que le danger apparaît plus vif que jamais, que je vais changer d'avis sur cette question-là. Surtout que le modèle s'est précisé, toujours dans le sens que je viens de vous décrire, c'est-à-dire où le danger est réel, et où on voit à peu près la limite de ce que serait l'ambition américaine dans l'immédiat. Mais bon, toujours est-il que les Américains n'en sont pas encore là. Comme je vous l'ai dit, il y a des, comment dire, des discussions à l'intérieur de l'opinion. Enfin, ça les obsède pas, hein, aux États-Unis. Mais enfin, il y a y a pas d'acquisition à cette idée-là dans l'opinion publique américaine. C'est très clair. Et vraisemblablement, c'est précisément l'opinion publique américaine que cherche l'Europe à faire jouer en déployant en faisant ce déploiement symbolique. Pour l'instant, au Groenland, on doit le grossir un peu. La France est en tête de tout ça, je vais probablement y revenir. Aucun autre pays en Europe n'est aussi radical que la France pour défendre le Groenland. Je suis même pas sûr que le Danemark le soit. En tout cas, en action, en mots, oui, sans doute, mais en action, je suis pas sûr. Il y a véritablement une tentative là, je vais y revenir, d'Emmanuel Macron d'utiliser cette crise-là pour se refaire un peu la cerise. Et dans le genre non-compréhension des enjeux et difficulté à mesurer le danger, je ne lui fais pas particulièrement confiance, puisque je vous rappelle qu'il a été surpris par l'invasion de l'Ukraine. Donc, ce que je... Pourquoi j'arrive pas à basculer sur moi? Voilà. Vous avez comment dire? C'est pas un tweet, puisque c'est le post de Donald Trump. Alors, on va la traduire directement, hein, faire confiance à l'IA. Pour vous le lire et puis pour essayer de voir un petit peu donc ce qu'il raconte. Donc sur le son, on est comment, mon cher Iruma? Quels sont les résultats? Parce que j'arrive pas à voir les résultats du sondage, moi. Je crois qu'il faudrait que je réponde. Si j'ai dit que c'est bon, ça, c'est quoi? Non, je sais pas, je peux pas répondre. Bref, tiens-moi au courant. Alors, donc vous avez 70% des gens pensent que c'est bon. Donc a priori, je pense que le son est bon. Donc voilà ce que dit Donald Trump, donc ça doit s'afficher en français chez vous aussi, puisque ça l'est chez moi. Nous avons subventionné le Danemark ainsi que tous les pays de l'Union européenne et d'autres encore pendant de nombreuses années en les exemptant de droits de douane et de toute autre forme de rémunération. Alors ça, éventuellement, on peut considérer que ça marche dans les deux sens, hein, parce que je dis que les affirmations de Donald Trump ont toujours pu être considérées comme un petit peu fantaisistes. Ou gratuite, mais enfin, c'est ça. Il témoigne d'une certaine perception qu'il y a du côté américain. Et surtout, si on intègre dans le calcul les sous-dépenses dans le cadre de l'OTAN d'un certain nombre de pays, il n'est pas impossible que la balance de calcul soit juste d'un certain point de vue. Après des siècles, il est temps pour le Danemark de rendre l'appareil. La paix mondiale est en jeu. Donc, il introduit ça quand même comme du genre vous nous en devez une. Ce qui n'est pas totalement faux non plus. Si on est tout à fait honnête sur le sujet. Parce que bon, on est quand même face à des élites européennes qui, depuis 3 ans, expliquent que il faut surtout pas que les États-Unis nous abandonnent. Depuis un an, depuis l'arrivée de Donald Trump, passent leur temps à accuser Donald Trump de vouloir abandonner l'OTAN. Il a publié dernièrement un tweet expliquant qu'il serait toujours là, même si les Européens n'étaient pas là pour lui. Alors, ce qui ne sont que des mots, évidemment, à ce stade-là, hein, mais encore faudrait-il le prouver, mais en tout cas, il l'a dit, déjà, et bon, d'habitude, on lui reprocherait de ne pas le dire, donc il faut quand même en avoir conscience, et donc c'est quand même important à souligner, parce que vous avez de l'autre côté des Européens qui, à la fois, demandent aux États-Unis de ne pas cesser de les protéger, et de l'autre côté, chercherait à faire à croire qu'ils sont prêts à entrer en guerre contre les États-Unis si les États-Unis demandaient un truc exigé une espèce de paiement territorial pour leurs services, quoi. Alors, donc, la Chine et la Russie convoitent le Groenland et le Danemark est impuissant. Il dispose actuellement de deux traîneaux à chiens pour se protéger, un troisième ayant été ajouté récemment. C'est quand même drôle. C'est quand même drôle. On peut critiquer, mais la vanne est bonne. La blague est valide. Seuls les États-Unis d'Amérique, sous la présidence de Donald J. Trump, donc toujours, se jette des fleurs, peuvent jouer dans ce jeu et avec brio. Personne ne touchera à cette terre sacrée, d'autant plus que la sécurité nationale des États-Unis et du monde entier est en jeu. Alors là, c'est intéressant parce que les États-Unis, dans le même temps, Donald Trump recadre l'ambition américaine de prendre le contrôle du Groenland en expliquant que c'est pour, grosso modo, c'est pour le service de l'Occident. C'est-à-dire, c'est pour la sécurité américaine, mais là aussi, il dit c'est pour la sécurité. En gros, c'est pour votre sécurité. Alors, c'est Orwellien comme formule, toujours. Mais il y a aussi cette idée-là. En tout cas, quand il s'agit de se poser la question de savoir justement la sécurité européenne, savoir si c'est mieux défendu par les États-Unis ou le Groenland, c'est une question qui est pertinente. Et en tout cas, ça pose la question des moyens qui devraient être engagés par les Européens pour arriver au même niveau de protection que les États-Unis pourraient y mettre. De plus, le Danemark, la Norvège, la Suède, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la Finlande se sont rendus au Groenland pour des raisons inconnues, dit-il. Vous voyez, ça c'est important. Ils refusent d'entrer dans ce jeu. Alors, ce jeu qui est le jeu des Européens, qu'on peut considérer là encore, ça c'est vous faire d'autres opinions que c'est lui qui l'a provoqué. Mais ce jeu qui est celui des Américains, des Européens, qui tout de même, surtout la façon dont en France on affirme ça, consiste à considérer que les États-Unis seraient une menace. Ce qui, et là je fais une petite digression, est pour moi un problème. Parce que vous avez dans les élites européennes maintenant une façon. Alors encore une fois, reprenons le problème. Juridiquement, on est d'accord, aller piquer, essayer de piquer un territoire qui appartient au Danemark, à la limite sans poser la question, etc. C'est pas dans les clous, à minima. Maintenant, dire qu'il suffit, expliquer qu'il suffit de ça pour que ça mette Trump, l'Amérique de Trump et la Russie de Poutine sur le même plan comme puissance impérialiste, prédatrice, etc., je trouve ça excessif. Alors, c'est parfaitement cohérent de la part d'élites qui passent leur temps à nous expliquer que Trump est dans la main de Poutine ou inversement, ou qu'ils s'entendent très bien, etc. Ce qui était le discours de l'establishment américain aussi. Et d'ailleurs, on ne m'enlèvera pas de l'idée que les Européens, l'establishment européen, qui lui-même est en train de petit à petit perdre le pouvoir en Europe, depuis les dernières européennes notamment, et au fil de certaines élections nationales, cherche d'une certaine manière la confrontation avec les États-Unis sur ce point-là. Pour sauver son propre pouvoir. Mais bref, je fais une digression dans la digression là. Donc pour revenir à ma digression de base. Donc vous avez un ennemi, d'accord, qui vous en veut clairement, qui vous martyrise, comme la Russie, ok. Et de l'autre côté, vous avez un ami et allié traditionnel. On va pas dire le contraire, hein, depuis 100 ans et même plus pour la France, qui tout d'un coup a une exigence qu'on peut dire un peu caractériel, qu'on peut considérer comme unique, qu'on peut considérer comme illégal si vous voulez. Et d'un coup, vous allez considérer que les deux sont sur le même tableau. Moi, ça me pose personnellement un problème. Et je pense très honnêtement que ça doit être un truc de psychologie. Je pense qu'il y a deux types de gens. Il y a les gens pour lesquels, je ne sais pas, peut-être le principe ou le droit à la règle est la plus importante, la plus absolue. Et puis vous avez ceux qui considèrent peut-être que les relations sont les plus importantes. Vous savez, alors, de par mon métier, je suis souvent dans des affaires de succession, d'héritage, etc. Je suis toujours navré de voir à quel point les familles peuvent se déchirer sur des questions d'argent. Et moi, c'est vrai que moi, ma réflexion, je vais vous le dire tout bêtement, hein, ma réflexion primale, parce qu'on a tous une réflexion, enfin, une réaction, pardon, à une question instinctive, puis après on a la réaction à raisonner. Ma réaction instinctive à propos de la question du Groenland, ça a été, bon, si c'est les États-Unis, ça reste dans la famille. Hein, grosso modo, c'est ça. On n'en faisait pas grand-chose jusqu'à maintenant, bon, pourquoi pas. Mais vous avez toujours des gens dans une famille qui, eux, préféreront considérer que non, qu'on va pas commencer comme ça, parce que sinon, ça remet tout en cause, etc. Et donc, c'est deux types de psychologie différentes. Et moi, donc, j'ai un problème avec la psychologie affichée actuelle par les élites européennes, qui consiste d'une certaine manière à bazarder. Et oui, ce que j'appelle l'amitié transatlantique, parce que je sais qu'il y a des gens qui me disent, ils me ressortent, ils me citent la citation de De Gaulle, les nations n'ont pas d'amis, elles n'ont que des intérêts. Je pense que c'est faux. Je pense que c'est faux. Je pense que, certes, les alliances peuvent se faire avec, selon les intérêts, mais il y a aussi des liens amicaux, voilà. Et ces liens amicaux peuvent exister. En tout cas, ils font normalement que vous tournez plus facilement le dos à certaines relations qu'à d'autres. Voilà. Et quand vous avez une relation, une histoire partagée, des épreuves dans lesquelles vous avez été ensemble, comme c'est le cas de l'Europe et des États-Unis, se trouver prêt à aller à la cogne, parce que c'est de ça qui est question, hein, une question comme celle du Groenland, je trouve ça excessif. Voilà. En tout cas, je trouve ça problématique qu'on y arrive aussi vite. D'accord. Même en expliquant que les États-Unis sont menaçants, etc., j'ai un souci avec ça. Voilà, à ce parce que ça, pour le coup, ça accrédite l'idée que les reproches qu'on faisait à Donald Trump sur le fait qu'il risquait de lâcher l'alliance, etc., alors qu'il n'a pas lâché, il n'a pas lâché l'Ukraine non plus. Souvent, vous accusez des autres de ce que vous savez vous-même que vous risquez de le faire. Et donc, la plupart des gens qui sont très méfiants sont aussi des gens qui sont très malhonnêtes. Hein. Et inversement, le problème des gentils, c'est qu'ils sont aussi naïfs. Mais voilà. Moi, j'ai effectivement un problème avec cette évolution-là. Et c'est vrai que mon premier positionnement, c'est de penser que il y a quand même quelque chose. Il existe quelque chose tel que la relation transatlantique en soi. Et la bazarder du jour au lendemain sur cette question-là, ça me paraît excessif. Aller tout de suite dans la décision. Je trouve qu'on a une promptitude à aller dans la confrontation qui est exagérée. Alors vous avez les Allemands qui ont fait un peu plus d'efforts, à mon avis, que nous, qui a été de dire que c'était contre les Russes et les Chinois que ce déploiement a été fait, ce qui, à mon avis, est beaucoup plus habile. Voilà, mais chez nous, dans la presse, etc., ça a été présenté plutôt comme on va défendre le Groenland contre les Américains, et ça, à mon avis, c'est un glissement qui est rapide et qui est même dangereux, surtout à un moment où il y a besoin d'une forme d'unité occidentale. Bref. Donc Donald Trump n'est pas content, et Donald Trump décide de. Et donc voilà, je reviens donc à cette question-là en particulier. Donald Trump, lui, il dit pour une raison inconnue. Raison inconnue, c'est. En fait, il fait semblant de ne pas être sûr que c'est parce qu'il considère les pays européens que les États-Unis pourraient être un ennemi. Mais en même temps, on comprend qu'il comprend que c'est le cas. D'accord? Donc. Seront soumis à un droit de douane de 10% sur toutes les marchandises expédiées aux États-Unis. Le 1er juin 2026, ce droit de douane passera à 25%. Il restera applicable jusqu'à la conclusion d'un accord pour l'acquisition complète du Groenland. Les États-Unis tentent de réaliser cette transaction depuis plus de 150 ans. De nombreux présidents s'y sont essayés, à juste titre, mais le Danemark a toujours refusé. C'est bien visant le Danemark, hein, toujours en plus, dans la façon dont Trump le voit. Le Groenland n'a pas trop la parole. Aujourd'hui, compte tenu du Golden Dome et des systèmes d'armement modernes, tant offensifs que défensifs, l'acquisition du Groenland est plus que jamais nécessaire. Des centaines de milliards de dollars sont actuellement investis dans des programmes de sécurité liés au dôme de cristal, notamment pour la protection potentielle du Canada. Ça semble être une extension. Je n'avais pas entendu parler du dôme de cristal avant ça. Ce système aussi ingénieux que complexe ne peut fonctionner à plein potentiel avec une efficacité maximale en raison de ses contraintes de périmètre. Que si ce territoire en fait partie. Les États-Unis sont immédiatement disposés à négocier avec le Danemark et ou tout autre pays ayant pris des risques considérables, malgré tous nos efforts pour les protéger, y compris en leur assurant une protection maximale pendant des décennies. Nous vous remercions de votre attention. Voilà, et là ça se termine sur ce point qui est effectivement, d'après moi, important, c'est que les États-Unis ont protégé l'Europe, ils l'ont fait notamment pendant toute la guerre froide. Les Européens se sont aussi associés aux États-Unis après la frappe. On a honoré les contraintes. L'article 5 de l'OTAN, il a été appliqué une seule fois, c'est au profit des États-Unis en Afghanistan après le 11 septembre 2001. Mais pendant très longtemps, vous savez, moi je me souviens hein, à l'époque de W. Bush, donc c'était il y a 20 ans, il demandait déjà à ce que les pays de l'OTAN se reprennent en main, les pays d'Europe. surprenant même militairement, parce qu'ils ne pouvaient pas faire tout ça. Et alors, quand les, si les gens vous disent à l'époque qu'il n'y avait pas de danger, etc., il y a déjà eu la guerre en Géorgie en 2008, hein, du côté de Vladimir Poutine, donc on ne va pas faire comme si c'était rien passé de, par là-bas. On n'est pas dans une situation facile. C'est pour ça que j'aime bien l'idée de querelle de famille, parce qu'on est un peu là-dessus. Vous avez des gens qui ont des intérêts qui sont compréhensibles, qui sont opposés, et à ce moment-là, vous avez deux types de comportements. Vous avez soit la capacité à trouver une solution dans laquelle on ne s'engueule pas, soit ça devient la foire d'empoigne. Et c'est ça que je trouve extrêmement dangereux, moi, personnellement, surtout dans la situation actuelle. Parce qu'à ce moment-là, on risque d'aller vers le scénario du pire, tout simplement. Si vous allez revoir l'émission que j'avais faite, je vous parlais sur la dissolution de l'Union européenne. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le conflit de référence, que je compare souvent à l'époque, à ce qui se passe aujourd'hui avec Vladimir Poutine? C'est le conflit avec Persée de Macédoine, à l'occasion de la troisième guerre macédonienne. Je vous refais le contexte. En 196 avant Jésus-Christ, au terme de la deuxième guerre macédonienne, qui est concomitante en fait à la deuxième guerre punique, donc celle d'Hannibal, vous avez les Romains qui libèrent la Grèce, les cités grecques traditionnelles, de la domination macédonienne, qui est donc l'équivalent de la domination russe, hein, et je ne sais pas si je peux vous faire on va le faire depuis Google Maps, ça sera peut-être plus simple. Voilà, vous aviez la Macédoine, c'était par là. En fait, c'est plus par là. Hein. Maintenant, ce qu'on appelle Macédoine du Nord, c'est pas vraiment, c'était comme morceau de Macédoine. Macédoine, c'est plutôt ça, là. Voilà, ce que vous voyez écrit entre Macédoine, Bulgarie et Thessalonique. C'était par là, la Macédoine. Et donc, la Macédoine, c'était un peu la Russie de la Grèce. D'ailleurs, si vous regardez dans la configuration, c'est un peu pareil. Et depuis Alexandre le Grand, grosso modo, la Macédoine dominait la Grèce avec des flux et des reflux. Hein, mais grosso modo, c'était comme ça que ça se passait. Et donc, vous avez Rome qui, lors de cette guerre, parce que Philippe V de Macédoine était allié d'Hannibal à Carthage, Rome était donc menacée de part et d'autre, hein, entre la Macédoine, l'Empire macédonien ici, et Carthage ici. Et donc Rome a battu Hannibal, et ensuite elle est allée battre Philippe de Macédoine, et l'a forcé à se retirer de Grèce. D'accord ? Donc c'est l'équivalent de 1991 pour l'Europe. Donc vous avez une Europe qui est libérée, si vous voulez, et vous avez Flamininus, le consul Flamininus, qui était celui qui était à la tête des troupes romaines, qui proclame la liberté cité grecque. C'est-à-dire qu'habituellement, quand Rome arrivait quelque part, elle annexait, oui, comme par exemple la Sicile. Mais là, en Grèce, il y avait une espèce de fraternité, à la fois d'admiration de Rome pour les cités grecques, et l'idée que c'était au même niveau de civilisation, et donc on ne pouvait pas réduire en esclavage la Grèce, donc on l'a libérée, et donc la Grèce a été libérée comme ça. Et 20 ans plus tard, un peu plus de 20 ans plus tard, il y a l'impérialiste revanchard macédonien qui s'appelle Persée de Macédoine, qui veut dominer la Grèce à nouveau. Donc il se prépare, il amasse un trésor, il embauche des mercenaires, etc., il rebâtit une armée, tout ça. Et je vous la fais courte, donc il essaie de dominer la Grèce, notamment en achetant des démagogues à des endroits, etc. En faisant de la guerre hybride, en fait. Et puis la guerre qui finit par éclater avec Rome. Et là, ce qui se passe, c'est que grosso modo, Rome doit se battre toute seule contre Persée de Macédoine. La guerre dure quand même 4 ans, ça s'enlise, parce qu'au début, il y a eu un petit souci. À la bataille de Kalinikos où les Romains ont été battus par Persée de Macédoine, donc ils ont dû se replier, du coup la guerre a duré après. Il y a un certain nombre de cités grecques qui ont été complaisantes avec Persée de Macédoine, tout ça. À la fin, les Romains arrivent à battre la Macédoine, mais ce qui sort du conflit, c'est que les Grecs, il y a une méfiance qui s'installe entre les Grecs et les Romains, parce que les Romains se disent, les Grecs sont pas très fiables. On vient les aider, les mecs nous laissent nous battre tout seuls. C'est pas très correct. Et de leur côté, les Grecs, à la fin de la Troisième Guerre macédonienne, donc quand Persée est battue, ils commencent à se dire, après tout, on n'a pas besoin de la domination romaine pour être protégé. Maintenant, on peut se débrouiller tout seul. Et même, on peut nous mettre une puissance, nous-mêmes, de notre côté. Voilà, rival de Rome. Et ça s'est pas bien passé du tout, puisque du coup... Là aussi, je vous la fais courte, mais ça a fini qu'il y a eu une guerre entre Rome et la Grèce, et la Grèce s'est faite piler, est devenue une province. Donc ce à quoi elle avait échappé en 196 avant Jésus-Christ, par égard de Rome à l'égard de la Grèce, a été totalement perdu par le fait que les Grecs se sont en fait montrés assez ingrats et présomptueux dans leur relation avec Rome. Et donc moi ce que j'ai toujours dit, c'est que comme je fais le parallèle entre Persée de Macédoine et Vladimir Poutine aujourd'hui, depuis un moment, naturellement, je m'inquiète de ça. Je m'inquiète de ce qu'à l'occasion de ce conflit, d'ailleurs dans les premières émissions que j'ai dû faire, je crois, sur le sujet sur la chaîne, j'ai dû expliquer ça. J'ai dû expliquer que moi ma crainte, c'était que quand la guerre se déclencherait, les Européens seraient très très peu actifs, attendraient la protection romaine et que, enfin la protection américaine, pardon, et que les Américains seraient agacés. Et très honnêtement, moi, ce que je vois dans cette affaire groenlandaise, c'est qu'on avance vers quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, je vois se concrétiser, se réaliser ces mécaniques psychologiques que je craignais déjà de voir arriver. Donc, je vous ai lu le message de Donald Trump. On va lire le message d'Emmanuel Macron, qui peut-être a été le plus prompt à répondre et à s'agacer en disant les choses suivantes. La France est attachée à la souveraineté et à l'indépendance des nations, en Europe et ailleurs. Ce principe guide nos choix et sous-tend notre engagement envers les Nations Unies et leur charte. C'est sur cette base que nous soutenons et continuerons de soutenir l'Ukraine et que nous avons constitué une coalition de personnes désireuses d'œuvrer pour une paix solide et durable afin de défendre ces principes de notre sécurité. Rien à dire. C'est également sur cette base que nous avons décidé de participer à l'exercice organisé par le Danemark au Groenland. Nous assumons pleinement cette décision car la sécurité dans l'Arctique, aux frontières de notre Europe, est en jeu. Aucune intimidation ni menace ne nous influencera, ni en Ukraine, ni au Groenland, ni nulle part ailleurs dans le monde, lorsque nous serons confrontés à de telles situations. Les menaces tarifaires sont inacceptables et n'ont pas leur place dans ce contexte. Si elles se confirment, les Européens réagiront de manière unie et coordonnée. Nous veillerons au respect de la souveraineté européenne. C'est dans cet esprit que je m'engagerai auprès de nos partenaires européens. Alors, c'est la position d'Emmanuel Macron. Il n'est pas impossible que sur le principe, la position d'un certain nombre de pays européens soit la même. Maintenant, je ne pense pas très honnêtement en tout cas, qu'un certain nombre de pays européens soient aussi disposés à aller à cet éventuel clash que la France. Et en particulier que la France à travers Emmanuel Macron. Parce que, bon, déjà, alors j'écarte le à mon avis, même si c'est une donnée à mon avis qui existe, hein, c'est qu'Emmanuel Macron essaie de sauver son mandat, il a une vision de son destin personnel, ce qui est dangereux. Il a une vision de son orgueil personnel aussi, ce qui est dangereux, parce que comme Trump n'arrête pas de se moquer de lui à propos d'histoires de médicaments, de trucs un peu invérifiables d'après ce que j'ai vu, semble-t-il, ça l'énerve. Alors je pense que Trump le fait aussi parce qu'il voit que Emmanuel Macron est en pointe contre lui sur ce dossier du Groenland. Mais inversement, du coup, Emmanuel Macron se braque à ce propos-là. Il y a l'idée de se faire un destin dans l'adversité quoi, avec Emmanuel Macron, et ça, c'est un peu dangereux. Et il y a autre chose d'après moi qui est là, qui est pour le coup une tendance française plus lourde, et qui, c'est cette espèce de besoin régulier de s'opposer aux Américains pour montrer qu'on existe. Ce qu'on avait fait pour l'Irak en 2003, et alors, souvent j'entends les gens, moi, je veux bien qu'on me fasse toutes les objections du monde, mais souvent des gens qui m'expliquent qu'il faut défendre notre intérêt, etc. Je ne vois pas bien en quoi tout ce qu'on avait fait contre la guerre en Irak en 2003 était dans notre intérêt. C'était peut-être dans notre intérêt de ne pas y aller, effectivement, mais d'essayer de bloquer véritablement la puissance, c'est-à-dire jouer une partition, si vous voulez, pour se donner une stature, etc. Pourquoi pas? Mais partir tout seul devant, si vous voulez, aller au clash, en se disant les autres suivront et les autres vous suivent pas derrière, c'est assez problématique. Et moi, c'est la peur que j'ai du très mauvais calcul de ça. Surtout de la part de quelqu'un, encore une fois, qui n'a pas une même mise solide sur son pays, si vous voulez. J'évoque pas les problèmes de budget que j'aurais dû traiter ce soir, mais on a quand même cette fragilité qui pose problème. Alors, encore une fois, sur la déclaration de principe, j'ai rien à dire là-dessus. Je veux dire, c'est cohérent. Je peux pas dire qu'il a tort de dire ça en soi. Le problème, c'est la confrontation vers laquelle ça peut mener. Parce que l'ennui... Alors, j'entends tout à fait l'objection... qui dit, oui, mais même, mettons, si on accepte de négocier sur Danemark, on ne peut pas se coucher tout de suite, en gros. Donc, il faut quand même établir un rapport de force. Alors, j'ai envie de dire oui, le problème, c'est qu'en soi, là aussi, il y a des questions de calcul. En soi, commencer à établir un rapport de force, si vous établissez un rapport de force immédiatement sur le plan militaire et que vous commencez à mettre, d'une certaine manière, votre ego ou votre capacité de dissuasion dans la balance, vous rajoutez un enjeu qui n'était pas là à la base et qui ensuite va dicter votre conduite. Je m'explique. Si le truc commence, la négociation commence, qu'on vous dit je vais acheter le Danemark, vous dites d'accord, c'est 1000 milliards. Bon, je pense que le prix est énorme, donc compliqué pour l'autre. Mais vous avez rien à faire de plus. Et là, si la personne commence à dire sinon je le prends par la force, là, vous pouvez aller dans ce sens-là. Mais je ne suis pas sûr que ça serait arrivé. Si on avait juste annoncé un prix, il y aurait peut-être eu une négociation pour faire baisser le prix. Mais à la fin, si vous voulez, le problème, c'est que vous auriez pas été, on n'aurait pas été humilié dans ce cas-là. Le problème, c'est que le principe juridique aurait été un peu entamé, ça c'est sûr. Surtout que le Danemark ne veut pas lâcher. Bon, il y a aussi un problème, on va dire, national, qui est que le Danemark, en fait, cherche à utiliser la puissance de ses alliés européens pour conserver un territoire qu'il est manifestement incapable de garder tout seul. Ce qui en soi est également un autre problème. C'est un problème dans le problème, si vous voulez. Il y a d'autres questions d'ailleurs. Si vous réfléchissez à des questions d'intérêt, pur même d'intérêt vis-à-vis des alliés, le Danemark est un allié d'accord, il faut défendre le Danemark. Les États-Unis aussi sont un allié. Quand vous avez deux alliés, qu'il y en a un qui est beaucoup plus fort que l'autre, vous avez le droit aussi de mettre en balance votre intérêt. Ça fait partie de la raison d'État. Est-ce qu'il vaut mieux préserver ma bonne relation avec celui qui peut me servir à quelque chose, ou et avec qui j'ai surtout 2 siècles d'histoire de proximité, ou bien est-ce que je sacrifie tout ça au nom du... Est-ce que le principe vaut d'être sacrifié pour un allié qui est d'une utilité bien plus discutable C'est très, très cynique ce que je dis, mais c'est comme ça que ça se calcule, hein, ce genre de choses. Et en plus, avec lequel on n'a pas une histoire de fraternité d'armes extraordinaire. Si vous prenez le Danemark, on a été allié avec eux pendant la guerre napoléonienne, et en fait, ils ont juste basculé de notre côté parce que les Britanniques les ont attaqués, parce qu'ils avaient peur que la flotte danoise tombe aux mains de Napoléon. Donc c'est pour ça qu'ils sont... Voilà, mais on n'a pas une histoire de fraternité d'armes avec les Danois qui est extraordinaire, quoi. Donc ça joue aussi. Donc le simple fait de dire c'est en Europe, le Groenland n'y est pas. Donc il faut bien voir que parfois, à l'occasion d'une négociation qui s'engage, vous allez par la façon dont vous traitez la négociation créer de l'enjeu. Si au début il n'y a pas d'enjeu de dissuasion, mais que vous décidez d'en faire un enjeu de dissuasion, ensuite il y a un enjeu de dissuasion dedans. Et vous ne pouvez pas revenir en arrière, ou c'est très compliqué. Et puis il y a la question de savoir qui c'est que vous essayez de dissuader. Parce que si vous déployez quelques troupes au Groenland pour en vous disant que vu que l'opinion publique américaine ne veut pas qu'il y ait de recours à la force, eh bien vous mettez Donald Trump échec et mat parce qu'il ne pourra rien faire. Dans ce cas-là, bon, ça peut marcher pour protéger le Groenland. Par contre, ça n'enverra absolument aucun signal dissuasif à la Chine et à la Russie. Pourquoi? Parce que la Chine et la Russie auront parfaitement conscience que vous avez pu faire ça uniquement parce que vous aviez l'opinion américaine de votre côté et que vous n'aurez jamais l'opinion chinoise ou l'opinion russe de votre côté. Donc c'est pas de la vraie dissuasion, ça. C'est un truc de dissuasion de mes amis qui essaient de faire quelque chose. Donc c'est, vous voyez, le calcul. Et le problème, c'est que malgré tout, il faut quand même que ça soit suivi des faits. Parce que, toujours pareil, vous décidez d'envoyer des commandos, d'accord? Vous envoyez un traîneau, bon, ça, il y a eu cette blague de Donald Trump. Mais effectivement, ça reste symbolique. Et il y a le risque que votre dissuasion, si elle est trop symbolique, elle soit contre-productive, parce qu'elle a l'air totalement ridicule. Et inversement, ou dans le prolongement de ça, si au début, il n'y a pas d'enjeu particulier, on vous demande de vendre le Danemark, vous dites à la base, non, c'est pas à vendre. Il insiste un peu. Vous dites, oh, ça vous coûterait beaucoup trop cher, etc. Vous laissez la porte ouverte. La négociation est possible. Et à la limite même, si on avait décidé de faire ça avec Donald Trump, on aurait pu essayer de faire traîner les négociations. Si vous vous dites, on tient jusqu'au mi-terme, etc., pourquoi pas. Mais à partir du moment où vous vous lancez dans l'idée qu'il faut faire une démonstration de force, ça ferme la porte pour l'avenir. Parce que si en face, vous avez quelqu'un qui est vraiment déterminé à prendre, vous allez faire quoi? Vous allez aller jusqu'à la confrontation pour ça? Et surtout, moi, ce qui m'inquiète, c'est que on a une confrontation véritablement qui arrive, selon moi, je vous l'ai déjà dit. Alors si je me trompe, ça remet en question le calcul, très bien, mais moi je vous explique les choses avec la façon, le calcul tel que je l'ai fait. Voilà. Vous y croyez pas, vous vous positionnez en fonction de ça. Mais si vous admettez le calcul, vous admettez que la raison que je donne n'est pas absurde. On est sur le point d'avoir une confrontation stratégique mondiale. Et vraisemblablement que cette année, il va y avoir des développements très importants. Que ce soit du côté de la Russie, qui commence en plus à être obligée de vendre massivement des devises et de l'or pour faire tourner son économie, qui croit une seule seconde que Vladimir Poutine se laissera aller jusqu'à la ruine et à l'effondrement de son régime sans tenter quelque chose d'idiot et de suicidaire, mais de très dangereux. Il y a les informations sur la Chine que je vous ai déjà données, réaffirmées d'ailleurs par Xi Jinping au moment de ses vœux à la Chine cette année, du Nouvel An. Dans ces circonstances-là, ne pas chercher à calmer le jeu et chercher aussitôt à aller à la confrontation avec Donald Trump, c'est dangereux. Alors, sachant qu'il y a peut-être un gros cynisme d'ailleurs du côté de Donald Trump, pour bon, ça, ce n'est pas surprenant, mais comme je vous l'ai dit, il est vraisemblable que si la Russie est sur le point de faire quelque chose dans les semaines, les mois qui viennent, les Américains sont au courant. Et je vous dis qu'à mon avis, la négociation avait été accélérée à la fin de l'année, probablement pour cette raison-là, parce qu'ils cherchaient à aller dans ce sens-là. Donald Trump peut, en sachant ça, se dire ben, je vais prendre le Groenland vite fait, parce que de toute façon, ils vont très vite être occupés ailleurs. À ce moment-là, il jouerait du fait que les Européens vont être attaqués par les Russes. Et en se disant, de toute façon, ils n'oseront rien me dire, parce qu'après, ils auront besoin de moi. C'est possible aussi, c'est cynique, mais c'est possible. Mais dans ce cas-là, c'est encore plus dangereux d'aller à la confrontation, parce que si vous atteignez un certain niveau de confrontation avant, je veux dire, ça met en péril tout l'édifice occidental, encore une fois. Et je continue de penser que dans la notion d'Occident, je sais qu'elle déplaît à un certain nombre de personnes, qui y voient une espèce d'obstacle à la souveraineté européenne, ce qui est possible, mais elle a quand même aussi sa pertinence. Dans un monde où les Occidentaux sont très minoritaires, tenir absolument à faire la différence entre les Américains et les Européens, j'ai tendance à penser que ça peut être aussi un petit peu de l'orgueil mal placé. Et puis comme je l'ai dit, il y a une question d'élite aussi. Il y a une question des élites européennes qui, pour beaucoup, sont plus tellement légitimes. On a un establishment qui a été renversé aux États-Unis, on a un establishment similaire qui existe toujours en Europe, qui est en train de basculer peu à peu, encore une fois, avec les élections nationales, les élections aussi à l'échelle européenne, c'est-à-dire cet ordre, grosso modo, social-démocrate, ces coalitions au centre qui sont en train de s'affaiblir, et qui, peut-être, dans la confrontation avec l'Amérique de Donald Trump sur le sujet du Groenland, trouvent un prétexte commode à essayer de faire leur propre unité. Et de faire évoluer le modèle européen, et ça c'est une raison pour nous d'être inquiets aussi, vers ce qu'ils tendent à annoncer, c'est-à-dire un modèle dans lequel ils veulent censurer l'opposition et aller vers une espèce de bras de fer avec l'Amérique de Trump qui voudrait qu'il y ait liberté d'expression en Europe et qu'il y ait le basculement. Donc si vous voulez, de ce point de vue-là, cette confrontation autour du Groenland, c'est pas uniquement le Groenland, le sujet, c'est aussi la confrontation du bastion refuge, on va dire, de l'establishment occidental, qui est l'Europe, contre la citadelle Amérique, qui elle a été prise. L'establishment est tombé là-bas. Et je pense pas qu'il s'en relèvera. Et donc il peut y avoir une tentative de l'establishment d'aller plutôt la guerre civile, si vous voulez, que la perte de pouvoir aussi dans leur moitié européenne du truc. Et ça, je pense que c'est extrêmement dangereux. Parce que c'est le genre de fragilité que vous voyez dans un ancien régime finissant. Le fait de préférer aller chercher l'aventure extérieure plutôt que de tomber. Vous pouvez voir la même chose actuellement dans un certain nombre de menaces qui sont proférées aussi par les Iraniens, où ils n'ont d'ailleurs toujours pas rétabli le courant, enfin l'Internet. J'aurais pu dire aussi deux mots de l'Iran, peut-être j'en dirai deux mots dans les questions, mais pour faire un peu le service après-vente de l'émission de la semaine dernière. Mais voilà où on en est. On a toujours une Europe qui fait mine d'aller à la confrontation sur ce sujet du Groenland, parce qu'encore une fois, je ne suis pas sûr que tout le monde suivrait. Je pense que nous, en France, on est capable d'y aller assez bêtement, même sans trop compter par, on va dire, par passion idéaliste. Mais à côté de ça, en Iran, en gros, on attend de voir ce que Donald Trump va faire. Pas de politique européenne d'intervention en Iran. On surveille la situation, mais ça va pas beaucoup plus loin, quoi. Donc ce soir, donc, on en est là. On en est à ce stade-là. Avec vraisemblablement Donald Trump qui a l'intention, malgré tout, de s'emparer de ça. Et de toute façon, moi je vous dis, je pense que les États-Unis le prendront. Ils le prendront parce que dans le cadre de la confrontation qu'il y aura avec la Chine et la Russie, c'est l'idée de contrôler tout l'Arctique, c'est l'idée de contrôler tout leur hémisphère. Et encore une fois, vous avez la puissance qui est au cœur de l'ordre mondial, qui sont les États-Unis, qui estiment qu'ils ont besoin du Groenland pour assurer leur domination mondiale, notamment avec le Golden Dome. Il le dit pour des raisons de périmètre, c'est ça, parce que ce que veut faire Donald Trump, c'est qu'il veut pouvoir mettre ce qu'il veut où il veut, sans avoir à rendre compte à personne. Actuellement, il y a des accords qui lui permettent de déployer des trucs, mais il faut demander l'autorisation du Parlement danois. Donc forcément, c'est très compliqué. Ce que veut faire Donald Trump, c'est qu'il veut que ce soit chez lui et qu'il puisse mettre des installations secrètes partout où il veut, des radars, des trucs, des systèmes de détection, de missiles, etc., de trucs à basse altitude, parce que maintenant, comme on le voit, il y a des bombardements de plus en plus à longue portée, avec des drones notamment, c'est-à-dire des choses qui vont lentement, qui ne répondent pas, qui ne sont pas repérées par les mêmes systèmes que ceux qui détectent les missiles balistiques. Ça nécessite les missiles intercontinentaux, pardon, ça nécessite de nouvelles installations. Et Donald Trump, il veut pouvoir en mettre partout où il veut, partout dans le Canada, partout au Groenland, partout. Et en période de guerre, notamment contre la Chine et la Russie, ça sera particulièrement saillant, parce que comme je vous l'ai dit, pour les États-Unis, il y a une urgence à se préparer à la confrontation contre la Chine et la Russie. Et ce que j'avoue, j'ai tendance à penser, c'est que si l'Europe, je peux le concevoir, a un intérêt à conserver le Groenland, notamment pour des raisons de ressources et d'indépendance énergétique vis-à-vis de la Chine, enfin d'indépendance matérielle, pardon, parce qu'il y a des terres rares, et qu'on commence à exploiter d'ailleurs, mais qui commenceront véritablement à être exploitées que vers 2028 au plus tôt, plus probablement après 2030, donc c'est encore un peu long. Mais il y a des accords qui ont été faits dans ce sens avec l'Europe. Donc en ce sens-là, on ne veut pas perdre le Groenland. Le truc, c'est que, à mon sens, et à choisir, il vaut mieux accepter de perdre le Groenland et s'assurer que l'ordre occidental sur le monde est maintenu, parce que malgré tout, l'ordre occidental, ben, on est au cœur de ça, et on en fait partie, plutôt que de prendre le risque que... Alors, je ne pense pas que l'ordre occidental soit renversé, parce que pour moi, de toute façon, il ne sera pas renversé. Je pense que les États-Unis s'en sortiront. Mais que dans cet ordre post-mondial, il soit plus perçu du côté américain comme un ordre occidental, dans lequel on est quand même les cousins outre-Atlantique, mais dans lequel on serait juste une province parmi d'autres, et où là, pour le coup, ça ne serait pas du tout dans notre intérêt. Et où, à ce moment-là, ça fera une belle jambe d'avoir de s'être battu pour le Groenland. Enfin, c'est comme ça que je le vois, encore une fois, au regard de l'analyse historique que j'en ai faite. Maintenant, si vous voulez garder la substantifique moelle de cette vidéo, vous référez à ce que j'ai dit au début sur l'analyse historique de la Russie, de l'UE et des États-Unis, parce que c'est ça qui fonde mon appréciation. Peut-être qu'avec la même analyse historique, vous aurez une autre appréciation, et c'est bien votre droit. Mais voilà, ici on fait de l'historionomie, et donc à la base l'analyse historionomique est quand même doit servir de boussole, et moi je vous ai dit ce que j'en pense sur la base de cette analyse là voilà. Et sur l'autre base qui est mon côté sentimental, on va dire, qui est que quand en famille ou dans un groupe comme ça ou parmi mes amis il y a des gens qui entre eux en viennent à se disputer pour un certain sujet, mon réflexe, c'est plutôt de dire ça vaut pas le coup de se disputer pour ça. Je pense que l'unité vaut mieux que de se disputer pour ça. Mais tout le monde n'est pas forcément d'accord. Et je peux le concevoir, parce que pour une partie, c'est une question de subjectivité. Voilà ce que je voulais dire là-dessus ce soir. Je vais voir si on a eu des questions ou des remarques, puisque je rappelle que la première remarque Enfin, le commentaire le plus liké en commentaire de la vidéo fait l'objet de mon propre commentaire lors de la vidéo suivante. Donc, n'hésitez pas à venir mettre des commentaires, ça aide aussi au référencement des vidéos. La question était, elle était à propos de l'Iran justement. Les gardiens de la révolution sont des gardiens de la révolution car ce sont des islamistes qui y croient ou car pour avoir un salaire vivable en tant que militaire, il faut être gardien. La réponse 1 signifie une transition violente et la réponse 2, rapide et peu violente. Ben en fait, le truc, c'est que c'est les deux. Hein. C'est les deux, vraisemblablement. Vous en avez certains d'un certain genre et certains d'autres d'un autre genre. Comme dans tout ce genre de noyaux dirigeants et intéressés dans un ancien régime. Donc, ce vers quoi on va actuellement, moi, je vous avais dit que. Je sentais que le scénario syrien était le plus probable. On n'a pas eu de ralliement de l'armée dans l'immédiat. Il y a eu ce vers quoi on semble aller, c'est une espèce de quand même de guerre à bas, enfin ça peut évoluer très vite, hein. De guerre civile à bas bruit, puisqu'il commence à y avoir pas mal d'assassinats, les types sont marqués. Il semble que les Iraniens aient fait venir des milices irakiennes en Iran pour faire la répression, donc ce qui semble impliquer qu'ils ont eu peur d'envoyer un certain nombre de troupes iraniennes contre les manifestants de peur que les Iraniens refusent de tirer sur leurs frères ou leurs cousins, alors que les Arabes irakiens s'en foutent un peu. Ce qui peut laisser penser voilà, une petite fébrilité en interne. En plus, Internet a toujours pas été restauré. Il va peut-être y avoir des frappes de Trump. Trump a dit que, alors pour l'instant, il y a les Iraniens ont réussi à éviter ça à éviter ça. Je ne sais pas s'ils ont évité parce qu'en fait, le problème de Trump aussi, c'est que il n'avait pas les moyens sur place. Donc, il a envoyé le Gerald Ford, je crois, et je crois l'USS Lincoln aussi qui est en train de se positionner, mais qu'il leur fallait respectivement 7 et 10 jours pour venir. Donc, la principale raison pour laquelle, semble-t-il, les Américains n'ont pas frappé jusqu'ici, c'est tout simplement qu'ils n'ont pas les moyens sur place. En tout cas, qu'ils ne sont pas préparés, parce qu'il faut aussi anticiper les ripostes iraniennes qui se sont réarmées depuis juin. Donc, ça va jouer aussi, mais donc la situation va continuer à évoluer dans les semaines qui viennent. Bienvenue à Oltre dans. Enfin, c'est Al, dans le rang de Maître Historienum. Merci. On a une question choix sélectionnée par l'Iromissime. Si demain Trump souhaite s'emparer des Antilles françaises ou de la Guyane pour les mêmes raisons que le Groenland, aurait-il le même point de vue? Faudrait-il lui céder? Ben là, pour le coup, je dirais non, mais c'est parce qu'étant franco-français, j'estime que ça, pour le coup, c'est français. C'est français. Et puis, donc, on a un intérêt qui, pour le coup, est un intérêt direct. Et que pour le coup, là, on passerait pour des pites, parce que le problème, si vous voulez, c'est que si on laissait faire au Groenland, la dissuasion française en tant que telle, à la base, elle n'était pas menacée, d'après moi. Je veux dire, ça n'aurait pas mis en doute les capacités de la France à se défendre et à défendre l'Europe, le fait que au Groenland, on fasse rien. Parce que le statut du Groenland est différent, etc. Le fait qu'on s'engage tout de suite dans ce combat-là, en expliquant en gros qu'il faut défendre le Groenland, etc. Là, ça me gêne parce que c'est ce que je vous disais, le fait de créer soi-même des enjeux, on crée un enjeu de dissuasion qui n'existait pas. Et donc la question maintenant du coup se pose à ce moment-là pour les Antilles françaises ou la Guyane, est-ce que ça serait les mêmes raisons? Parce que si on n'avait rien dit sur le Groenland, vous ne me poseriez pas la question. Parce que c'était qu'il y avait une différence évidente et qu'il était évident que la Guyane, c'était non. Et les Antilles françaises non plus. Mais là, effectivement, ça a créé une confusion. Et moi, ça me pose un petit problème, malgré tout, c'est que Emmanuel Macron a décidé que on allait faire finalement mettre au même niveau de défense stratégique le Groenland contre les États-Unis et nos propres territoires d'outre-mer. Encore une fois, qu'on ne me dise pas que c'est pour envoyer un signal, par exemple, à propos de la Nouvelle-Calédonie à la Chine. Parce que la Chine ne sera pas du tout impressionnée par ce qu'on fait, parce qu'encore une fois, il n'y a pas d'opinion publique sur laquelle jouer en Chine. Donc pour moi, c'est problèmes différents. On a décidé de les mélanger, et du coup, en affaiblissant, à mon avis, notre dissuasion sur nos propres territoires d'outre-mer. Donc moi, c'est pour ça que j'ai un problème avec ça, et qu'on a encore une fois Emmanuel Macron qui a décidé de faire ça tout seul. Et il n'a pas eu une vista particulière en matière stratégique, Emmanuel Macron, depuis. depuis 15 ans, surtout qu'il va venir maintenant faire des leçons sur le fait de réciter, de résister à la prédation américaine, alors que lui-même leur a vendu des bijoux de famille. Mais qu'il a mis son gouvernement dans la main de McKinsey. Donc, si vous voulez, moi, au bout d'un moment, voilà, j'ai eu de gros problèmes avec l'attitude d'Emmanuel Macron et avec sa politique dans cette direction-là. Alors, Hiruma me fait suivre une information sur laquelle l'Union européenne s'apprêterait à suspendre l'accord commercial avec les États-Unis en réponse aux nouveaux tarifs douaniers annoncés par Donald Trump. Oui, ben ça aussi. Il y a aussi un autre problème, si vous voulez, à propos du Groenland, etc. C'est que quand vous êtes honnête, que vous réfléchissez aux situations, c'est ce que je disais tout à l'heure au grief que pouvait avoir l'Amérique de Trump. Quand vous laissez en plan vos dépenses militaires pendant 30 ans, et que vous laissez pourrir une situation stratégique, vous avez une part de responsabilité au moment où la crise arrive. Et ne pas admettre cette part de responsabilité, c'est voilà, c'est pas un signe particulier d'intelligence et de. Et de, et de, et qui promet une résolution intelligente du problème, quoi. Bienvenue à Fézard qui nous rejoint dans les souscriptions de la chaîne, je le remercie. C'est l'occasion de rappeler que en rejoignant cette chaîne, vous avez accès à tout un tas de contenus supplémentaires. On vous mettra un petit rappel d'ailleurs qui sera au début de l'émission que je vais publier lundi, le super live des abonnés. Vous avez les trois paliers. Compagnon Historienhomme, ça vous donne accès au catalogue des vidéos sans pub. Frère Historienhomme, ça vous donne accès au bulletin. Donc c'est 4 fois quatre fois par mois, c'est une demi-heure à peu près à chaque fois. Et au parler Maître Historienhomme, vous avez accès à tout cela et en plus au live privé, comme celui qui va suivre, et au super live privé désormais, qui sont de nouveaux contenus dans ce sens-là. Et je rappelle à ceux qui obtenaient jusqu'ici des contreparties contenues via Tipeee, peuvent le faire désormais. Je les invite à venir le faire depuis YouTube parce que à partir du 31 janvier, on ne fera plus les deux dispositifs parce que c'est trop compliqué à gérer. Voilà. Et n'hésitez pas à nous soutenir, c'est très important. Je continue. Docteur Sherlock, merci pour le don. Le Danemark, les Groenlandais, tout le monde s'en fout. On a affaire à un bras de fer entre USA impérialiste et France impérialiste revancharde. Alors, je ne dirais pas qu'on est encore impérialiste revancharde, même si on est à l'aube de peut-être l'être, puisqu'on va entrer en révolution nationale. Mais vous pouvez avoir un début d'impérialiste revancharde avant la révolution nationale. On le voit sous Louis XVI, notamment. Avec la participation à la guerre d'indépendance. Le truc, c'est que dans la déclaration de principe des pays européens, l'idée, c'était quand même l'avenir du Groenland ne peut être décidé que par les Danois et les Groenlandais. C'était ça, les déclarations de principe. Ce qui laisse, et les Européens n'ont été d'accord que sur ça, ce qui laisse entendre qu'il y a un certain nombre de pays européens pour lesquels il n'est absolument pas question d'aller se friter avec les États-Unis pour ça. Hors de question. C'est juste. Grosso modo, au Danemark de se démerder. Donc là aussi, il faut bien se dire que si jamais vous avez une confrontation USA-UE, ça ne serait pas l'entièreté de l'UE telle que vous l'avez aujourd'hui qui serait contre les USA. Hein. Ça serait nettement plus réduit. Donc le rapport de force n'est pas forcément très favorable. Carciofo, est-ce que la baisse de la part de blancs dans la démographie américaine peut amener à rompre le lien transatlantique? Alors, ça pourrait partiellement jouer. Ça pourrait partiellement jouer. Bon, après, beaucoup sont des latinos. Donc, ce que j'avais émis il y a quelque temps, c'est que peut-être ça pourrait rapprocher l'Amérique de la partir de l'Europe latine, latine et catholique. Ça pourrait créer un pont comme ça et affaiblir le pont anglo-saxon. Mais je pense qu'on n'en est pas encore là, surtout avec les politiques de déportation. Docteur Sherlock, encore merci. Bonsoir. Worst case scénario, jusqu'où les USA peuvent aller pour prendre le Groenland, jusqu'où l'Europe peut aller pour le garder, guerre chaude. C'est la question. Le truc, c'est qu'est-ce qu'on est prêt à mettre au Groenland? Et puis encore une fois, oui, c'est la chose sur laquelle je ne suis pas revenu, mais enfin, j'en ai parlé un peu, mais véritablement, pour moi, c'est très important. Il faut raisonner en quatre dimensions, et notamment historionomique, et voir ce qui vient. S'il n'y avait pas de confrontation mondiale qui arrivait, à la limite, je pourrais mieux comprendre la position européenne. Il n'y a pas de risque de guerre. C'est tout d'un coup les Américains qui viennent nous emmerder là-dessus. On va tenir bon, on va pas lâcher le Groenland. Pourquoi pas? Dans ces circonstances, pourquoi pas? Là, on est encore une fois dans une situation où il y a les problèmes en Ukraine. Ça fait 3 ans qu'on pleurniche auprès des Américains pour qu'ils nous aident. Ça fait 1 an qu'on pleurniche pour pas que l'Alliance américaine s'en aille parce qu'on pourrait avoir besoin d'eux contre la Russie, etc. Il y a un renforcement du danger du côté de la Russie, à mon sens. Également du côté de la Chine autour de Taïwan. Il y a une confrontation qui s'annonce. Confrontation dans laquelle il y aura besoin d'une forme d'unité transatlantique. Sinon, ça risque d'être très très compliqué pour tout le monde. Et j'ai l'impression que la crise autour du Groenland n'est absolument pas considérée en tenant compte de tout ceci. Peut-être parce que nos dirigeants l'ignorent ou n'en ont pas conscience, ou, etc. Ou parce qu'ils l'interprètent à contresens, à mon avis. C'est-à-dire en disant, mais justement, du coup, on doit tout dissuader, y compris les Américains. Et si on dissuade les Américains, les Russes comprendront qu'on ne peut pas se foutre de notre gueule. Ce qui, à mon avis, je vous expliquer pourquoi, à mon avis, ça ne fonctionnerait pas comme ça. Mais donc voilà. Donc le risque de guerre chaude, à mon avis, guerre chaude, non, je dirais plutôt une occupation, enfin, guerre chaude. Oui, mais façon Mersel Kébir, quoi. Mersel Kébir. Mersel Kébir, les Britanniques ont peur que la flotte française ne passe aux mains des Allemands. Donc elle l'attaque par surprise, par traîtrise, on pourrait dire, et coule des navires français et tue des marins français au nom de l'intérêt supérieur britannique qui est en situation de guerre. Si vous avez une guerre qui éclate, si la Russie attaque l'OTAN, si la Russie attaque l'OTAN et que Donald Trump, du coup, immédiatement envoie en masse des troupes au Groenland, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. Très honnêtement, moi, je veux dire une chose à laquelle ça me fait penser, cette histoire au Groenland, là, telle qu'on est en train de la lancer, ça me fait penser au comportement de la Belgique à la fin des années 30. Vous savez que jusqu'à très tard, la Belgique a décidé de faire valoir sa neutralité parce qu'elle ne voulait pas être envahie. Ce qui était assez drôle parce que la Belgique, de toute façon, allait se faire envahir. S'il y a une guerre entre la France et l'Allemagne, la Belgique se fait envahir. Elle l'avait vécu 20 ans plus tard, mais ça les a pas perturbés. Ils ont préféré. Voilà. Et donc, quand la guerre est arrivée et que les troupes françaises se sont massées à la frontière belge en disant aux Belges. Laissez-nous rentrer, laissez-nous aller au contact des Allemands, vous allez vous faire envahir, vous allez vous faire rouler dessus, ça va être catastrophique. Les troupes belges se sont mis face aux Français en disant non, vous passez pas, on défend le territoire belge, on est neutre. Voilà. Donc les Belges nous ont empêchés de nous déployer correctement, ensuite il était trop tard, et puis ensuite, bon, on a fait des conneries, on est allé en Belgique, on s'est fait piéger, vous connaissez l'histoire. Mais à la base, il y a eu cette espèce de comportement belge qui, quand vous refaites l'histoire, vous vous dites, mais qu'est-ce que cette connerie? Pourquoi? Je voyais bien, vous avez les Allemands, ils les avaient eu 20 ans après, ils allaient revenir. Pourquoi avoir fait ça? Voilà. Il y a un peu ce côté-là. Ce côté, ah non, nous on veut pas, on défend sur tous les flancs. C'est pas un signe de très grande intelligence stratégique, d'après moi. Robin, Poutine pourrait-il profiter de la tension US et UE pour attaquer le pays de l'OTAN et espérer profiter d'une forme d'apathie américaine? Et je pense que ça doit jouer aussi. La question, c'est de savoir si Donald Trump fait ce qu'il fait à propos du Groenland en tenant compte du fait qu'il sait que la guerre est. Mais de toute façon, oui, les Américains savent que l'attaque est imminente. Et donc, vous avez là encore une fois une espèce de. Ouais, de mécanique, j'avais parlé d'escalade de la peur à la veille de l'invasion de l'Ukraine, et on a quelque chose comme ça, sauf que au lieu d'avoir deux camps dans cette escalade de la peur, on en a un petit peu trois ou quatre, hein, si vous rajoutez la Chine, où tout le monde se regarde, personne ne veut se battre tout seul, la Chine ne veut pas se battre toute seule contre les États-Unis, la Russie ne veut pas se battre toute seule contre l'OTAN, elle veut essayer de se battre toute seule contre l'Europe, la Chine voudrait voilà. Vous voyez, c'est des trucs comme ça, je vous avais expliqué, hein, ces espèces de manœuvres croisées pour casser les alliances. Et y a une volonté. Alors, dernièrement, ça me voyait Vladimir Poutine est redevenu très lénifiant depuis quelques semaines, expliquant qu'il veut se remettre à discuter avec les Européens. Semble-t-il qu'il a redit qu'il était favorable à faire la paix en Ukraine, etc. Donc, il réessaie de gagner du temps. Mais à mon avis, il prépare un sale coup. Mais voilà où on en est. Je pense qu'il profite. De toute façon, c'est le climat qui est en train de pourrir, et donc oui, sans doute qu'il en profitera d'une manière ou d'une autre. Encore à Dr. Sherlock, merci. Si on accepte de négocier, que demander aux USA en échange du Groenland afin d'obtenir le deal le plus avantageux pour l'Europe? Ben, on pourrait leur demander du pognon pour essayer d'accélérer notre réarmement, par exemple. On pourrait demander des garanties sur l'exploitation et la fourniture de terres rares, parce que ça me dit que c'est pour ça principalement que le Groenland nous intéresse. Je veux dire, si vous regardez une carte, vous voyez que le Groenland appartient quand même plutôt à l'espace américain qu'à l'espace européen. Donc il y a une légitimité territoriale qu'on n'a pas forcément pour avoir ses ressources, mais on a un intérêt légitime à demander ses ressources. On va dire la légitimité historique du Danemark qui reste quand même ténue, hein, sur ce territoire. Donc, si vous voulez, moi je pense qu'on pourrait avoir des accords là-dessus, garantir les fournitures de terres rares, garantir je sais pas, des libres accès en matière de navigation, etc., des trucs comme ça, même si c'était sous domination américaine. Et puis effectivement, obtenir de l'argent, par exemple, pour essayer de développer, peut-être même des technologies, pour développer notre propre Golden Dome, par exemple. Parce que, a priori, le Golden Dome, il protégera que l'Amérique du Nord, pas l'Europe. Donc, il y aurait une tentative de faire quelque chose comme ça. À mon avis, ça aurait été intéressant. Le problème, c'est de savoir est-ce que c'est encore négociable, ça. Parce que si on s'avance trop dans le non, non, on le donnera pas, etc., là, pour le coup, si finalement on décide de vendre, là, on va passer pour des qu'on ne peut pas se permettre de passer pour, quoi. Et on aurait pu, à ce moment-là, il aurait mieux valu l'éviter. Voilà, mais je sais pas trop ce que ça va donner. Enfin, si je sais ce que ça va donner à la fin, je vous l'ai dit, mais je sais pas dans l'immédiat si on va continuer à s'arc-bouter là-dessus. La question, c'est le moment aussi où la Russie va bouger, etc., quoi. Voilà. Sans parler du fait que chez nous, on a des problèmes internes que du coup je n'ai pas évoqué ce soir sur le budget, tout ça, mais sans doute qu'on y reviendra une prochaine fois. Alors, est-ce que... Oui, un petit mot avant de vous laisser et d'aller dans le live privé. Je vous avais dit qu'on allait remettre les promotions en service. En quoi consistent les promotions? Elles ne consistent pas à acheter des abonnés, elles consistent à acheter de la visibilité sur YouTube. C'est ce que vous voyez des fois avec un fichier sponsorisé. Mon idée étant que, de manière générale, quand les gens entendent parler d'astronomie, souvent ça les intéresse. Et il y a beaucoup de gens, il a suffi que je leur parle ou qu'ils m'entendent une fois pour devenir très intéressés et suivre. Et s'intéresser à mes travaux, etc. Et donc, ça fait un moment qu'on avait déjà, si on était arrivé à 50 000 abonnés, c'est en faisant ça, on achète de la visibilité, en fait. Et grosso modo, vous arrivez à faire quelques centaines, vous obtenez beaucoup d'impressions, c'est-à-dire c'est juste que ça apparaît sur l'écran de quelqu'un. Là-dessus, vous avez une fraction de ça, vraiment petite, genre c'est de l'ordre du pourcent, de gens qui vont aller regarder la vidéo. Et sur les gens qui la regardent, vous en avez à peu près 80% qui s'en foutent et qui s'en vont. Et vous en avez, en tout cas sur les bonnes vidéos, celles qui marchent bien, vous avez 20% des gens qui vont s'abonner. Et donc tous les abonnés qu'on a gagnés là depuis quelque temps, c'est ça. C'est cette fraction des gens qui ont eu accès au contenu et donc qui l'ont apprécié. Et donc en fait, les promotions, nous, ça nous sert à quoi? Ça nous sert à aller chercher ces gens-là. Vous êtes peut-être des gens qui avaient découvert la chaîne à travers les vidéos justement qui sont promues. Et bien c'est grâce à un effort qu'on fait, qui nous emmène un effort financier, parce qu'il faut payer YouTube pour faire ça. Et cet effort, on le finance grâce notamment aux dons qui nous ont été faits par les souscripteurs. Et donc grâce auxquels on arrive à diffuser cette vision du monde, cette grille de lecture astronomique pour... Voilà, et donc on va continuer à le faire. On a fait une grosse campagne en ce moment parce que les ratios que je surveille beaucoup, parce que c'est pas un euro investi, ramène pas autant d'abonnés à chaque fois. Mais encore une fois, c'est pas des abonnés qu'on achète, c'est la visibilité. Donc il y a des moments où un euro vous donne plus de visibilité, donc plus d'abonnés. Ça dépend peut-être aussi de l'actualité qui fait que les gens s'intéressent plus à certains sujets ou quoi. Mais en tout cas, voilà comment on est arrivé à ce résultat-là. Donc c'est pour vous dire que votre soutien paye, en tout cas pour la diffusion de l'Histoire, parce que du coup, bah, depuis 10 jours, on a gagné 10 000 abonnés, quoi. Et alors, bien sûr, je peux pas le faire tout le temps, ça dépend des ratios. Donc, il y a des fois, je suis obligé de ralentir parce que le ratio est pas bon. Puis, il réaccélère. Puis, bon, il y a des limites d'argent aussi. Mais on espère pouvoir, du coup, arriver aux 100 000 à Pâques. Ouais, ça serait bien, peut-être même avant. Et puis, peut-être qu'on arrivera à aller encore plus loin. Voilà. Et en tout cas, du coup, c'est grâce à votre soutien qu'on arrive à ça. Donc, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne. En plus, encore une fois, on fait un travail pour qu'il y ait beaucoup de contreparties qui soient, voilà, qui vaillent le coup. Donc, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne aux différents paliers, ceux qui vous arrangent. Et puis, si vous ne pouvez pas rejoindre la chaîne, vous pouvez aussi juste aller faire un petit don pour Tipeee. On ne supprime pas le Tipeee, hein, c'est juste qu'il n'y a plus les contreparties parce que c'est trop compliqué au plan logistique, surtout quand il y a beaucoup de monde. Voilà, donc je vais. On a peut-être des gens à accueillir, outre ceux dont j'ai vu passer le nom dans ce que m'a envoyé Marvin. Nous, donc, nous avons. Que je n'ai pas nommé. Alors, Chaco, je pense que c'est un transfuge. Ainsi que. Oui, je pense que c'est un transfuge. Jérémy Chaboche aussi, peut-être. Transfuge de Tipeee. Faisar, je lui dis bonjour. Et il y a Arnaud N qui nous a rejoint également. Et je vais voir si on a des gens qui sont arrivés du coup via Tipeee. Enfin, normalement, non, ou qui ont typé parce que. En tout cas, qui n'ont pas posé de questions. Normalement, il n'y a plus personne qui arrive via Tipeee pour les. En tout cas, pour les abonnements, puisque comme je vous ai dit, ça sera plus actif à la fin du mois. Non, je ne vois rien d'autre. Eh bien, écoutez, donc je pense que nous allons nous arrêter là pour ce soir. Je dis à tout de suite à nos chers souscripteurs. Je dis à merci aux autres d'être revenus. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, à activer la cloche pour avoir les notifications, notamment pour que vous sachiez quand l'émission de lundi sera mise en ligne. Et n'hésitez pas aussi à partager tout ça sur vos réseaux sociaux avec un petit commentaire. C'est une bonne façon aussi de diffuser mes travaux. Un autre moyen de soutenir la chaîne, encore une fois, c'est aussi d'acheter des bouquins. Vous avez celui-ci en particulier qui est un peu l'historionomie en roman. Attendez, je vais vous enlever ça. L'historionomie en version romancée qu'on avait réédité il y a 2 ans et qui s'ouvre sur un dialogue justement entre deux personnages qui sont exactement sur cette question de savoir s'il faut se soumettre à l'Empire américain ou au contraire, affirmer la souveraineté française ou européenne. J'avais écrit ça il y a 20 ans. Donc ça me fait rire quand des gens viennent m'expliquer que je suis un collabo parce que je dis que le Groenland devrait peut-être lâcher tout ça. Parce que justement, en fait, il y a déjà 20 ans, j'ai fait un bouquin dans lequel je défends... Enfin, dans lequel il y a un dialogue qui s'ouvre, en fait, sur un dialogue philosophique, dans lequel je défends les deux positions. C'est-à-dire, vous avez celui qui pense qu'il faut collaborer, il faut se soumettre à l'Empire américain, et celui qui pense qu'il faut résister, que c'est plus important... Et dans un dialogue qui ne tranche pas sur les deux, en plus, hein, qui laisse la question ouverte, parce que les deux visions sont, à mon avis, audibles. Voilà ce que je voulais vous dire pour ce soir. Ben, je vous dis à très bientôt, à tout de suite pour les souscripteurs, à bientôt pour les autres. Vous laissez pas faire.